we had a 1,200% increase in sales using TikTok ads.
My name is Linda, and I'm a co-founder of Love & Pebble. We created Beauty Pops, a frozen facial that melts into nourishing skincare.
I started this business with my husband, and we do everything from packing orders, marketing.
Before, it was just me creating videos, but now I have over 2,000 affiliates that are working with us. If we can do it with TikTok ads, you can too.
Want to grow your business fast? Head over to getstarted.tiktok.com/tiktokads.
Chapitre 3. Des confidences d'Arsène Lupin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par François. Les confidences d'Arsène Lupin. Par Maurice Leblanc. Chapitre 3. Le signe de l'ombre. J'ai reçu votre télégramme, me dit en entrant chez moi un monsieur à moustache grise, vêtu d'une redingote marron et coiffé d'un chapeau à large bord. Et me voici. Qu'y a-t-il ? Si je n'avais pas attendu Arsène Lupin, je ne l'aurais certes pas reconnu sous cet aspect de vieux militaire en retraite. Qu'y a-t-il ? Répliquai-je. Oh, pas grand-chose. Une coïncidence assez bizarre. Et comme il vous plaît de démêler les affaires mystérieuses, au moins autant que de les combiner. Et alors? Vous êtes bien pressé. Excessivement, si l'affaire en question ne vaut pas la peine que je me dérange. Par conséquent, droit au but. Droit au but, allons-y. Et commencez, je vous prie, par jeter un coup d'œil sur ce petit tableau que j'ai découvert, l'autre semaine, dans un magasin poudreux de la rive gauche, et que j'ai acheté pour son cadre Empire, à double palmette, car la peinture est abominable. Abominable, en effet, dit Lupin, au bout d'un instant, mais le sujet lui-même ne manque pas de saveur. Ce coin de vieille cour avec sa rotonde à colonnade grecque, son cadran solaire et son bassin, avec son puits délabré au toit Renaissance, avec ses marches et son banc de pierre, tout cela est pittoresque. Et authentique, ajoutai-je. La toile, bonne ou mauvaise, n'a jamais été enlevée de son cadre Empire. D'ailleurs, la date est là. Tenez, dans le bas, à gauche, ces chiffres rouges, 15-4-2, qui signifie évidemment 15 avril 1802. En effet, mais vous parliez d'une coïncidence, et jusqu'ici, je ne vois pas... J'allais prendre dans un coin une longue vue, que j'établis sur son trépied, et que je braquai vers la fenêtre ouverte d'une petite chambre située en face de mon appartement, de l'autre côté de la rue. Et je priai Lupin de regarder. Il se pencha. Le soleil, oblique à cette heure, éclairait la chambre où l'on apercevait des meubles d'acajou très simples, un grand lit d'enfant habillé de rideaux en crétonne. « Ah ! » dit Lupin tout à coup. « Le même tableau !»« Exactement le même, » affirmai-je. Et la date, vous voyez la date en rouge, 15-4-2. Oui, je vois. Et qui demeure dans cette chambre? Une dame, ou plutôt une ouvrière, puisqu'elle est obligée de travailler pour vivre. Des travaux de couture qui la nourrissent à peine, elle et son enfant. Comment s'appelle-t-elle? Louise d'Ernemont. D'après mes renseignements, elle est l'arrière-petite-fille d'un fermier général qui fut guillotiné sous la Terreur. Le même jour qu'André Chénier, acheva Lupin. Cet Ernemont, selon les mémoires du temps, passait pour très riche. Il releva la tête et me demanda. L'histoire est intéressante. Pourquoi avez-vous attendu pour me la raconter? Parce que c'est aujourd'hui le 15 avril. Eh bien? Eh bien, depuis hier, je sais, un bavardage de concierge, que le 15 avril occupe une place importante dans la vie de Louise d'Ernemont. Pas possible. Contrairement à ses habitudes, elle qui travaille tous les jours, qui tient en ordre les deux pièces dont se compose son appartement, qui prépare le déjeuner que sa fille prendra au retour de l'école communale, le 15 avril, elle sort avec la petite vers 10 heures et ne rentre qu'à la nuit tombante. Cela depuis des années et quel que soit le temps. Avouez que c'est étrange, cette date que je trouve sur un vieux tableau analogue, et qui règle la sortie annuelle de la descendante du fermier général Ernemont. Étrange. Vous avez raison, prononça Lupin d'une voix lente. Et l'on ne sait pas où elle va? On l'ignore. elle ne s'est confiée à personne. D'ailleurs, elle parle très peu. Vous êtes sûr de vos informations ?
Tout à fait sûr.
Et la preuve qu'elles sont exactes, tenez, la voici.
Une porte s'était ouverte en face, livrant passage à une petite fille de 7 à 8 ans qui vint se mettre à la fenêtre. Une dame apparut derrière elle, assez grande, encore jolie, l'air doux et mélancolique. Toutes deux étaient prêtes, habillées de vêtements simples, mais qui dénotaient chez la mère un souci d'élégance.
« Vous voyez, murmurai-je, elles vont sortir. »
De fait, après un moment, la mère prit l'enfant par la main et elles quittèrent la chambre. Lupin saisit son chapeau.
« Venez-vous ?»
Une curiosité trop vive me stimulait pour que je fisse la moindre objection. Je descendis avec Lupin. En arrivant dans la rue, nous aperçûmes ma voisine qui entrait chez un boulanger. Elle acheta 2 petits pains qu'elle plaça dans un menu panier que portait sa fille et qui semblait déjà contenir des provisions. Puis elles se dirigèrent du côté des boulevards extérieurs, qu'elles suivirent jusqu'à la place de l'Étoile. L'avenue Kléber les conduisit à l'entrée de Passy. Lupin marchait silencieusement, avec une préoccupation visible que je me réjouissais d'avoir provoquée. De temps à autre, une phrase me montrait le fil de ses réflexions, et je pouvais constater que l'énigme demeurait entière pour lui comme pour moi. Louise d'Ernemont, cependant, avait obliqué sur la gauche, par la rue Raynouard, vieille rue paisible, où Franklin et Balzac vécurent, et qui, bordée d'anciennes maisons et de jardins discrets, vous donne une impression de province. Au pied du coteau qu'elle domine, la Seine coule et des ruelles descendent vers le fleuve. C'est l'une de ces ruelles, étroite, tortueuse, déserte, que prit ma voisine. Il y avait d'abord à droite une maison, dont la façade donnait sur la rue Raynouard, puis un mur moisi, d'une hauteur peu commune, soutenu de contreforts, hérissé de tessons de bouteilles. Vers le milieu, une porte basse en forme d'arcade le trouait, devant laquelle Louise d'Ernemont s'arrêta et qu'elle ouvrit à l'aide d'une clé qui nous parut énorme. La mère et la fille entrèrent.
« En tout cas, me dit Lupin, elle n'a rien à cacher, car elle ne s'est pas retournée une seule fois. »
Il avait à peine achevé cette phrase qu'un bruit de pas retentit derrière nous. C'étaient 2 vieux mendiants, un homme et une femme déguenillés, sales, crasseux, couverts de haillons. Ils passèrent sans prêter attention à notre présence. L'homme sortit de sa besace une clé semblable à celle de ma voisine et l'introduisit dans la serrure. La porte se referma sur eux. Et tout de suite, au bout de la ruelle, un bruit d'automobile qui s'arrête. Lupin m'entraîna 50 mètres plus bas, dans un renfoncement qui suffisait à nous dissimuler. Et nous vîmes descendre, un petit chien sous le bras, une jeune femme très élégante, parée de bijoux, les yeux trop noirs, les lèvres trop rouges et les cheveux trop blonds. Devant la porte, même manœuvre, même clé. La demoiselle au petit chien disparut.
« Ça commence à devenir amusant, » ricana Lupin. « Quel rapport ces gens-là peuvent-ils avoir les uns avec les autres ?»
Successivement, débouchèrent 2 dames âgées, maigres, assez misérables d'aspect, et qui se ressemblaient comme 2 sœurs, puis un valet de chambre, puis un caporal d'infanterie, puis un gros monsieur vêtu d'une jaquette malpropre et rapiécée, puis une famille d'ouvriers, tous les 6 pâles, maladifs, l'air de gens qui ne mangent pas à leur faim. Et chacun des nouveaux venus arrivait avec un panier ou un filet rempli de provisions.
« C'est un pique-nique » m'écriai-je.
« De plus en plus étonnant, » articula Lupin, « et je ne serai tranquille que quand je saurai ce qui se passe derrière ce mur. » L'escalader, c'était impossible. En outre, nous vîmes qu'il aboutissait, au bas de la ruelle comme en haut, à 2 maisons dont aucune fenêtre ne donnait sur l'enclos. Nous cherchions vainement un stratagème, quand tout à coup, la petite porte se rouvrit et livra passage à l'un des enfants de l'ouvrier. Le gamin monta en courant jusqu'à la rue Raynouard. Quelques minutes après, il rapportait 2 bouteilles d'eau qu'il déposa pour sortir de sa poche la grosse clé. À ce moment, Lupin m'avait déjà quitté et longeait le mur d'un pas lent comme un promeneur qui flâne.
Lorsque l'enfant, après avoir pénétré dans l'enclos, repoussa la porte, il fit un bond et planta la pointe de son couteau dans la gâche de la serrure. Le pen n'étant pas engagé, un effort suffit pour que le battant s'entrebâillât. « Nous y sommes, » dit Lupin. Il passa la tête avec précaution, puis, à ma grande surprise, entra franchement. Mais ayant suivi son exemple, je pus constater que 10 mètres en arrière du mur, un massif de lauriers élevait comme un rideau qui nous permettait d'avancer sans être vu. Lupin se posta au milieu du massif. Je m'approchai, et ainsi que lui, j'écartai les branches d'un arbuste. Le spectacle qui s'offrit alors à mes yeux était si imprévu que je ne pus retenir une exclamation, tandis que de son côté, Lupin jurait entre ses dents. « Crebleu ! Celle-là est drôle !» Nous avions devant nous, dans l'espace restreint qui s'étendait entre les deux maisons sans fenêtres, le même décor que représentait le vieux tableau acheté par moi chez un brocanteur. Le même décor. Au fond, contre un second mur, la même rotonde grecque offrait sa colonnade légère. Au centre, les mêmes bancs de pierre dominaient un cercle de 4 marches qui descendaient vers un bassin aux dalles moisies. Sur la gauche, le même puits dressait son toit de fer ouvragé et tout près, le même cadran solaire montrait la flèche de son style et sa table de marbre. Le même décor. Et ce qui ajoutait à l'étrangeté du spectacle, c'était le souvenir obsédant pour Lupin et pour moi de cette date du 15 avril, et c'était l'idée que précisément ce jour-là, nous étions le 15 avril, et que 16 à 18 personnes si différentes d'âge, de conditions et de manières, avaient choisi le 15 avril pour se rassembler en ce coin perdu de Paris. Toutes, à la minute où nous les vîmes, assises par groupes isolés sur les bancs et les marches, elles mangeaient. Non loin de ma voisine et de sa fille, la famille d'ouvriers et le couple de mendiants fusionnaient, tandis que le valet de chambre, le monsieur à la jaquette malpropre, le caporal d'infanterie et les 2 sœurs maigres réunissaient leurs tranches de jambon, leurs boîtes de sardines et leurs fromages de gruyère. Il était alors 1h30. Le mendiant sortit sa pipe, ainsi que le gros monsieur. Les hommes se mirent à fumer près de la rotonde, et les femmes les rejoignirent. D'ailleurs, tous ces gens avaient l'air de se connaître. Ils se trouvaient assez loin de nous, de sorte que nous n'entendions pas leurs paroles. Cependant, nous vîmes que la conversation devenait animée. La demoiselle au petit chien, surtout, très entourée maintenant, pérorait et faisait de grands gestes qui incitaient le petit chien à des aboiements furieux. Mais soudain, il y eut une exclamation et aussitôt des cris de colère, et tous, hommes et femmes, ils s'élancèrent en désordre vers le puits. Un des gamins de l'ouvrier en surgissait à ce moment, attaché par la ceinture au crochet de fer qui termine la corde, et les 3 autres gamins le remontaient en tournant la manivelle. Plus agile, le caporal se jeta sur lui, et tout de suite, le valet de chambre et le gros monsieur l'agrippèrent, tandis que les mendiants et les sœurs maigres se battaient avec le ménage ouvrier. En quelques secondes, il ne restait plus à l'enfant que sa chemise. Maître des vêtements, le valet de chambre se sauva, poursuivi par le caporal qui lui arracha la culotte, laquelle fut reprise au caporal par une des sœurs maigres. « Ils sont fous !» murmurai-je, absolument ahuri. « mais non !» dit Lupin. « Comment ? Vous y comprenez donc quelque chose ?» À la fin, Louise d'Ernemont, qui s'était posée en conciliatrice, réussit à apaiser le tumulte. On s'assit de nouveau, mais il y eut une réaction chez tous ces gens exaspérés, et ils demeurèrent immobiles et taciturnes, comme harassés de fatigue. Et du temps s'écoula. Impatienté et commençant à souffrir de la faim, j'allai chercher jusqu'à la rue Raynouard quelques provisions que nous partageâmes tout en surveillant les acteurs de la comédie incompréhensible qui se jouait sous nos yeux. Chaque minute semblait les accabler d'une tristesse croissante, et ils prenaient des attitudes découragées, courbaient le dos de plus en plus et s'absorbaient dans leur méditation. « Vont-ils coucher là ? » prononçai-je avec ennui. Mais vers 5 heures, le gros monsieur à la jaquette malpropre tira sa montre. On l'imita, et tous, leur montre à la main, ils parurent attendre avec anxiété un événement qui devait avoir pour eux une importance considérable. L'événement ne se produisit pas, car au bout de 15 à 20 minutes, le gros monsieur eut un geste de désespoir, se leva et mit son chapeau. Alors, des lamentations retentirent. Les deux sœurs maigres et la femme de l'ouvrier se jetèrent à genoux et firent le signe de la croix. La demoiselle au petit chien et la mendiante s'embrassèrent en sanglotant, et nous surprîmes Louise d'Ernemont qui serrait sa fille contre elle d'un mouvement triste. « Allons-nous-en, » dit Lupin. « Vous croyez que la séance est finie ?»«
Oui, et nous n'avons que le temps de filer. »
Nous partîmes sans encombre. En haut de la rue Raynouard, Lupin tourna sur sa gauche et, me laissant dehors, entra dans la première maison, celle qui dominait l'enclos. Après avoir conversé quelques instants avec le concierge, il me rejoignit et nous arrêtâmes une automobile.
« Rue de Turin, 34 !» dit-il au chauffeur.
Au 34 de cette rue, le rez-de-chaussée était occupé par une étude de notaire et presque aussitôt, nous fûmes introduits dans le cabinet de maître Valandier, homme d'un certain âge, affable et souriant. Lupin se présenta sous le nom du capitaine en retraite Janniot. Il voulait se faire bâtir une maison selon ses goûts et on lui avait parlé d'un terrain sis auprès de la rue Raynouard.
« Mais ce terrain n'est pas à vendre !» s'écria maître Valandier.
« Ah ! On m'avait dit...
Nullement, nullement !»
Le notaire se leva et prit dans une armoire un objet qu'il nous montra. Je fus confondu. C'était le même tableau que j'avais acheté, le même tableau qui se trouvait chez Louise d'Ernemont.
« Il s'agit du terrain que représente cette toile, le clos d'Ernemont, comme on l'appelle. »
« Précisément. »«
Eh bien, » reprit le notaire, « ce clos faisait partie d'un grand jardin que possédait le fermier général d'Ernemont, exécuté sous la Terreur. Tout ce qui pouvait être vendu, les héritiers le vendirent peu à peu. Mais ce dernier morceau est resté, et restera dans l'indivision. À moins que... »
Le notaire se mit à rire.
« À moins que... » interrogea Lupin.
« Oh ! C'est toute une histoire, assez curieuse d'ailleurs, et dont je m'amuse quelquefois à parcourir le dossier volumineux.
« Est-il indiscret ?»«
Pas du tout, » déclara maître Valandier, qui semblait ravi, au contraire, de placer son récit. Et sans se faire prier, il commença. Dès le début de la Révolution, Louis Agrippa d'Ernemont, sous prétexte de rejoindre sa femme, qui vivait à Genève avec leur fille Pauline, ferma son hôtel du Faubourg Saint-Germain, congédia ses domestiques et vint s'installer, ainsi que son fils Charles, dans sa petite maison de Passy où personne ne le connaissait qu'une vieille servante dévouée. Il y resta caché durant 3 ans, et il pouvait espérer que sa retraite ne serait pas découverte lorsqu'un jour, après déjeuner, comme il faisait sa sieste, la vieille servante entra précipitamment dans sa chambre. Elle avait aperçu, au bout de la rue, une patrouille d'hommes armés qui semblait se diriger vers la maison. Louis d'Ernemont s'apprêta vivement et à l'instant où les hommes frappaient, disparut par la porte qui donnait sur le jardin, en criant à son fils d'une voix effacée « Retiens-les, 5 minutes seulement » Voulait-il s'enfuir? Trouva-t-il garder les issues du jardin? 7 ou 8 minutes plus tard, il revenait, répondait très calmement aux questions et ne faisait aucune difficulté pour suivre les hommes. Son fils, Charles, bien qu'il n'eût que 18 ans, fut également emmené.
« Cela se passait ?» demanda Lupin.
« Cela se passait le 26 Germinal en 2, c'est-à-dire le... » Maître Valandier s'interrompit, les yeux tournés vers le calendrier qui pendait au mur, et il s'écria.
« Mais c'est justement aujourd'hui. Nous sommes le 15 avril, jour anniversaire de l'arrestation du fermier général. »
« Coïncidence bizarre, » dit Lupin. « Et cette arrestation eut sans doute, étant donné l'époque, des suites graves. »
« Oh, fort grave !» dit le notaire en riant. 3 mois après, au début de Thermidor, le fermier général montait sur l'échafaud. On oublia son fils Charles en prison, et leurs biens furent confisqués.
« Des biens immenses, n'est-ce pas ?» fit Lupin.
« Eh voilà ! Voilà précisément où les choses se compliquent. Ces biens qui, en effet, étaient immenses, demeurèrent introuvables. On constata que l'hôtel du Faubourg Saint-Germain avait été,
avant la Révolution, vendu à un Anglais, ainsi que tous les châteaux et terres de province, ainsi que tous les bijoux, valeurs et collections du fermier général. La Convention, puis le Directoire, ordonnèrent des enquêtes minutieuses. Elles n'aboutirent à aucun résultat.
Il restait tout au moins, dit Lupin, la maison de Passy.
La maison de Passy fut achetée à vil prix par le délégué même de la commune qui avait arrêté d'Ernemont, le citoyen Broquet. Le citoyen Broquet s'y enferma, barricada les portes, fortifia les murs, et lorsque Charles d'Ernemont, enfin libéré, se présenta, il le reçut à coups de fusil. Charles intenta des procès, les perdit, promit de grosses sommes. Le citoyen Broquet fut intraitable. Il avait acheté la maison, il la garda, et il l'eût gardée jusqu'à sa mort, si Charles n'avait obtenu l'appui de Bonaparte. Le 12 février 1803, le citoyen Broquet vida les lieux, mais la joie de Charles fut si grande, et sans doute son cerveau avait été bouleversé si violemment par toutes ces épreuves, que, en arrivant au seuil de la maison enfin reconquise, avant même d'ouvrir la porte, il se mit à danser et à chanter. Il était fou.
« Bigre !» murmura Lupin. « Et que devint-il ? »
Sa mère et sa sœur Pauline, laquelle avait fini par se marier à Genève avec un de ses cousins, étant mortes toutes deux, la vieille servante prit soin de lui, et ils vécurent ensemble dans la maison de Passy. Des années se passèrent sans événements notables, mais soudain, en 1812, un coup de théâtre. À son lit de mort, devant deux témoins qu'elle appela, la vieille servante fit d'étranges révélations. Elle déclara que, au début de la Révolution, le fermier général avait transporté dans sa maison de Passy des sacs remplis d'or et d'argent, et que ces sacs avaient disparu quelques jours avant l'arrestation. D'après des confidences antérieures de Charles d'Ernemont, qui les tenait de son père, les trésors se trouvaient cachés dans le jardin, entre la rotonde, le cadran solaire et le puits. Comme preuve, elle montra trois tableaux, ou plutôt, car ils n'étaient pas encadrés, trois toiles que le fermier général avait peintes durant sa captivité et qu'il avait réussi à lui faire passer avec l'ordre de les remettre à sa femme, à son fils et à sa fille. Tenté par l'appât des richesses, Charles et la vieille bonne avaient gardé le silence. Puis étaient venus les procès, la conquête de la maison, la folie de Charles, les recherches personnelles et inutiles de la servante, et les trésors étaient toujours là.
« Et ils y sont encore !» ricana Lupin.
« Et ils y sont toujours !» s'écria maître Valandier. « À moins que le citoyen Broquet, qui sans doute avait flairé quelque chose, ne les ait dénichés. » Hypothèse peu probable, car le citoyen Broquet mourut dans la misère.
Alors ?
Alors on chercha. Les enfants de Pauline, la sœur, accoururent de Genève. On découvrit que Charles s'était marié clandestinement et qu'il avait des fils. Tous ses héritiers se mirent à la besogne.
Mais Charles ?
Charles vivait dans la retraite la plus absolue. Il ne quittait pas sa chambre.
Jamais ?
Si. Et c'est là vraiment ce qu'il y a d'extraordinaire, de prodigieux dans l'aventure. Une fois l'an, Charles d'Ernemont, mu par une sorte de volonté inconsciente, descendait, suivait exactement le chemin que son père avait suivi, traversait le jardin, et s'asseyait tantôt sur les marches de la rotonde, dont vous voyez ici le dessin, tantôt sur la margelle de ce puits. À 5h27, il se levait et rentrait, et jusqu'à sa mort, survenu en 1820, il ne manqua pas une seule fois cet incompréhensible pèlerinage. Or, ce jour-là, c'était le 15 avril, jour de l'anniversaire de l'arrestation. Maître Valandier ne souriait plus, troublé lui-même par la déconcertante histoire qu'il nous racontait. Après un instant de réflexion, Lupin demanda. « Et depuis la mort de Charles ?»«
Depuis cette époque, » reprit le notaire avec une certaine solennité,
depuis bientôt 100 ans, les héritiers de Charles et de Pauline d'Ernemont continuent le pèlerinage du 15 avril. Les premières années, des fouilles minutieuses furent pratiquées. Pas un pouce du jardin que l'on ne scruta, pas une motte de terre que l'on ne retourna. Maintenant, c'est fini. À peine si l'on cherche. À peine si, de temps à autre, sans motif, on soulève une pierre ou l'on explore le puits. Non, il s'assoit sur les marches de la rotonde, comme le pauvre fou, et comme lui, attendent. Et voyez-vous, c'est la tristesse de leur destinée. Depuis 100 ans, tous ceux qui se sont succédés, les fils après les pères, tous, ils ont perdu, comment dirais-je, le ressort de la vie. Ils n'ont plus de courage, plus d'initiative. Ils attendent. Ils attendent le 15 avril. Et lorsque le 15 avril est arrivé, ils attendent qu'un miracle se produise. Tous, la misère a fini par les vaincre. Mes prédécesseurs et moi, peu à peu, nous avons vendu, d'abord la maison, pour en construire une autre, de rapport plus fructueux, ensuite des parcelles du jardin, et d'autres parcelles. Mais ce coin-là, ils aimeraient mieux mourir que de l'aliéner. Là-dessus, tout le monde est d'accord, aussi bien Louise d'Ernemont, l'héritière directe de Pauline, que les mendiants, les ouvriers, le valet de chambre, la danseuse de cirque, etc., qui représentent ce malheureux Charles. Un nouveau silence, et Lupin reprit. « Votre opinion, maître Valandier ?»«
Mon opinion est qu'il n'y a rien. Quel crédit accorder au dire d'une vieille bonne affaiblie par l'âge? Quelle importance attachée aux lubies d'un fou? En outre, si le fermier général avait réalisé sa fortune, ne croyez-vous point que cette fortune se serait trouvée? Dans un espace restreint comme celui-là, on cache un papier, un joyau, non pas des trésors. Cependant, les tableaux?
Oui, évidemment. Mais tout de même, est-ce une preuve suffisante?
Lupin se pencha sur celui que le notaire avait tiré de l'armoire, et après l'avoir examiné longuement,
vous avez parlé de 3 tableaux.
Oui. L'un, que voici, fut remis à mon prédécesseur par les héritiers de Charles. Louise d'Ernemont en possède un autre. Quant au 3e, on ne sait ce qu'il est devenu.
Lupin me regarda et continua. Et chacun d'eux portait la même date?
Oui, inscrite par Charles d'Ernemont, lorsqu'il les fit encadrer peu de temps avant sa mort. La même date, 15-4-2, c'est-à-dire le 15 avril en 2, selon le calendrier révolutionnaire, puisque l'arrestation eut lieu en avril 1794.
Ah, bien, parfait, dit Lupin. Le chiffre 2 signifie...
Il demeura pensif durant quelques instants et reprit. Encore une question, voulez-vous? Personne ne s'est jamais offert pour résoudre ce problème?
Maître Valandier leva les bras.
Que dites-vous là? S'écria-t-il. Mais ce fut la plaie de l'étude. De 1820 à 1843, un de mes prédécesseurs, Maître Turbon, a été convoqué 18 fois à Passy par le groupe des héritiers auxquels des imposteurs, des tireurs de cartes, des illuminés avaient promis de découvrir les trésors du fermier général. À la fin, une règle fut établie. Toute personne étrangère qui voulait opérer des recherches devait au préalable déposer une certaine somme.
Quelle somme?
5 000 francs. En cas de réussite, le tiers des trésors revient à l'individu. En cas d'insuccès, le dépôt reste acquis aux héritiers. Comme ça, je suis tranquille.
Voici les 5 000 francs.
Le notaire sursauta.
Hein? Que dites-vous?
Je dis, répéta Lupin en sortant 5 billets de sa poche et en les étalant sur la table avec le plus grand calme, je dis que voici le dépôt de 5 000 francs. Veuillez m'en donner reçu et convoquer tous les héritiers d'Ernemont pour le 15 avril de l'année prochaine à Passy.
Le notaire n'en revenait pas.
Moi-même, quoique Lupin m'eût habitué à ses coups de théâtre, j'étais fort surpris.
C'est sérieux? Articula maître Valandier.
Absolument sérieux.
Pourtant, je ne vous ai pas caché mon opinion. Toutes ces histoires invraisemblables ne reposent sur aucune preuve.
Je ne suis pas de votre avis, déclara Lupin.
Le notaire le regarda comme on regarde un monsieur dont la raison n'est pas très saine. Puis, se décidant, il prit la plume et libella sur papier timbré un contrat qui mentionnait le dépôt du capitaine en retraite Janniot et lui garantissait 1/3 des sommes par lui découvertes.
« Si vous changez d'avis, ajouta-t-il, je vous prie de m'en avertir 8 jours d'avance. Je ne préviendrai la famille d'Ernemont qu'au dernier moment, afin de ne pas donner à ces pauvres gens un espoir trop long. »
« Vous pouvez les prévenir dès aujourd'hui, maître Valandier. Ils passeront, de la sorte, une année meilleure. »
On se quitta. Aussitôt dans la rue, je m'écriai.
« Vous savez donc quelque chose ?
Moi ? Répondit Lupin. Rien du tout. Et c'est là, précisément, ce qui m'amuse. Mais il y a 100 ans que l'on cherche. Il s'agit moins de chercher que de réfléchir. Or, j'ai 365 jours pour réfléchir. C'est trop. Et je risque d'oublier cette affaire, si intéressante qu'elle soit. Cher ami, vous aurez l'obligeance de me la rappeler, n'est-ce pas ?
Je la lui rappelai à diverses reprises pendant les mois qui suivirent, sans que d'ailleurs il parût y attacher beaucoup d'importance. Pourtant, il y eut toute une période durant laquelle je n'eus pas l'occasion de le voir. C'était l'époque, je le sus depuis, du voyage qu'il fit en Arménie et de la lutte effroyable qu'il entreprit contre le sultan rouge, lutte qui se termina par l'effondrement du despote. Je lui écrivais toutefois à l'adresse qu'il m'avait donnée, et je pus ainsi lui communiquer que certains renseignements obtenus de droite et de gauche sur ma voisine Louise d'Ernemont m'avaient révélé l'amour qu'elle avait eu, quelques années auparavant, pour un jeune homme très riche qu'il aimait encore, mais qui, contraint par sa famille, avait dû l'abandonner ainsi que le désespoir de la jeune femme, la vie courageuse qu'elle menait avec sa fille. Lupin ne répondit à aucune de mes lettres. Les recevait-il ? La date approchait cependant, et je n'étais pas sans me demander si ses nombreuses entreprises ne l'empêcheraient pas de venir au rendez-vous fixé. De fait, le matin du 15 avril arriva, et j'avais fini de déjeuner que Lupin n'était pas encore là. À midi un quart, je m'en allai et me fis conduire à Passy. Tout de suite, dans la ruelle, j'avisai les 4 gamins de l'ouvrier qui stationnaient devant la porte. Averti par eux, Maître Valandier accourut à ma rencontre. « Eh bien, le capitaine Janniot ? » s'écria-t-il. « Il n'est pas ici. »« Non, et je vous prie de croire qu'on l'attend avec impatience. » Les groupes, en effet, se pressaient autour du notaire, et tous ces visages que je reconnus n'avaient plus leur expression morne et découragée de l'année précédente. « Ils espèrent, me dit Maître Valandier, et c'est ma faute. Que voulez-vous ? Votre ami m'a laissé un tel souvenir que j'ai parlé à ces braves gens avec une confiance que je n'éprouve pas. Mais, tout de même, c'est un drôle de type que ce capitaine Janniot. » Il m'interrogea, et je lui donnai sur le capitaine des indications quelque peu fantaisistes que les héritiers écoutaient en hochant la tête. Louise d'Ernemont murmura. « Et s'il ne vient pas ?»« Nous aurons toujours les 5 000 francs à nous partager, » dit le mendiant. N'importe. La parole de Louise d'Ernemont avait jeté un froid. Les visages se renfrognèrent et je sentis comme une atmosphère d'angoisse qui pesait sur nous. À 1h30, les 2 sœurs maigres s'assirent, prises de défaillance. Puis, le gros monsieur à la jaquette malpropre eut une révolte subite contre le notaire. « Parfaitement, Maître Valandier, vous êtes responsable. Vous auriez dû amener le capitaine de gré ou de force. Un farceur, évidemment. » Il me regarda d'un œil mauvais, et le valet de chambre, de son côté, maugréa les injures à mon adresse. Mais l'aîné des gamins surgit à la porte en criant « Voilà quelqu'un ! Une motocyclette !» Le bruit d'un moteur grondait par-delà le mur. Au risque de se rompre les os, un homme à motocyclette dégringolait la ruelle. Brusquement, devant la porte, il bloqua ses freins et sauta de machine. Sous la couche de poussière qui le recouvrait comme d'une enveloppe, on pouvait voir que ses vêtements gros bleus, que son pantalon aux plis bien formés, n'étaient point ceux d'un touriste, pas plus que son chapeau de feutre noir, ni que ses bottines vernies. « Mais ce n'est pas le capitaine Janniot !» clama le notaire, qui hésitait à le reconnaître. « Si !» affirma Lupin en nous tendant la main. « C'est le capitaine Janniot. Seulement, j'ai fait couper ma moustache. Maître Valandier, voici le reçu que vous avez signé. » Il saisit un des gamins par le bras et lui dit. « Cours à la station de voiture et ramène une automobile jusqu'à la rue Raynouard. Galope, j'ai un rendez-vous urgent à 14h15. » Il y eut des gestes de protestation. Le capitaine Janniot tira sa montre. « Eh quoi ? Il n'est que 14h12. J'ai 15 bonnes minutes. Mais pour Dieu que je suis fatigué, et surtout comme j'ai faim !» En hâte, le caporal lui tendit son pain de munitions qu'il mordit à pleines dents. Et s'étant assis, il prononça. Vous m'excuserez, le rapide de Marseille a déraillé entre Dijon et La Roche. Il y a 15 morts et des blessés que j'ai dû secourir. Alors, dans le fourgon des bagages,
j'ai trouvé cette motocyclette. Maître Valandier, vous aurez l'obligeance de la faire remettre à qui de droit. L'étiquette est encore attachée au guidon. Ah, te voici de retour, gamin. L'auto est là, au coin de la rue Rénoir. À merveille. Il consulta sa montre. Hé hé, pas de temps à perdre. Je le regardai avec une curiosité ardente. Mais quelle devait être l'émotion des héritiers d'Ernemont? Certes, il n'avait pas, dans le capitaine Janniot, la foi que j'avais en Lupin. Cependant, leur figure était blême et crispée. Lentement, le capitaine Janniot se dirigea vers la gauche et s'approcha du cadran solaire. Le piédestal en était formé par un bonhomme au torse puissant qui portait sur les épaules une table de marbre dont le temps avait tellement usé la surface qu'on distinguait à peine les lignes des heures gravées. Au-dessus, un amour, aux ailes déployées, tenait une longue flèche qui servait d'aiguille. Le capitaine resta penché environ une minute, les yeux attentifs. Puis il demanda « Un couteau, s'il vous plaît ?» 2 heures sonnèrent quelque part. À cet instant précis, sur le cadran illuminé de soleil, l'ombre de la flèche se profilait suivant une cassure du marbre qui coupait le disque à peu près par le milieu. Le capitaine saisit le couteau qu'on lui tendait. Il l'ouvrit. Et à l'aide de la pointe, très doucement, il commença à gratter le mélange de terre, de mousse et de lichen qui remplissait l'étroite cassure. Tout de suite, à 10 centimètres du bord, il s'arrêta, comme si son couteau eût rencontré un obstacle, enfonça l'index et le pouce, et retira un menu objet qu'il frotta entre les paumes de ses mains et offrit ensuite au notaire. « Tenez, maître Valandier, voici toujours quelque chose. » C'était un diamant énorme, de la grosseur d'une noisette, et taillé de façon admirable. Le capitaine se remit à la besogne. Presque aussitôt, nouvelle halte. Un second diamant, superbe et limpide, comme le premier apparut. Puis il en vint un troisième et un quatrième. Une minute après, tout en suivant d'un bord à l'autre la fissure, et sans creuser certes à plus d'1,5 cm de profondeur, le capitaine avait retiré 18 diamants de la même grosseur. Durant cette minute, il n'y eut pas, autour du cadran solaire, un seul cri, pas un seul geste. Une sorte de stupeur anéantissait les héritiers. Puis le gros monsieur murmura « Crénom de crénom !» Et le caporal gémit « Ah ! Mon capitaine ! Mon capitaine !» Les 2 sœurs tombèrent évanouies. La demoiselle au petit chien se mit à genoux et pria, tandis que le domestique, titubant, l'air d'un homme ivre, se tenait la tête à 2 mains et que Louise d'Ernemont pleurait. Lorsque le calme fut rétabli et qu'on voulut remercier le capitaine Janniot, on s'aperçut qu'il était parti. Ce n'est qu'au bout de plusieurs années que l'occasion se présenta pour moi d'interroger Lupin au sujet de cette affaire. Il me répondit. L'affaire des 18 diamants? Mon Dieu! Quand je songe que 3 ou 4 générations de mes semblables en ont cherché la solution. Et les 18 diamants étaient là, sous un peu de poussière. Mais comment avez-vous deviné? Je n'ai pas deviné. J'ai réfléchi. Ai-je eu même besoin de réfléchir? Dès le début, je fus frappé par ce fait que toute l'aventure était dominée par une question primordiale, la question de temps. Lorsqu'il avait encore sa raison, Charles d'Ernemont inscrivait une date sur les 3 tableaux. Plus tard, dans les ténèbres où il se débattait, une petite lueur d'intelligence le conduisit chaque année au centre du vieux jardin, et la même lueur l'en éloignait chaque année, au même instant, c'est-à-dire à 5h27. Qu'est-ce qui réglait de la sorte le mécanisme déréglé de ce cerveau? Quelle force supérieure mettait en mouvement le pauvre fou? Sans aucun doute, la notion instinctive du temps que représentait sur les tableaux du fermier général le cadran solaire. C'était la révolution annuelle de la Terre autour du Soleil qui ramenait à date fixe Charles d'Ernemont dans le jardin de Passy. Et c'était la révolution diurne qui l'en chassait à heure fixe, c'est-à-dire à l'heure, probablement, où le Soleil, caché par les obstacles différents de ceux d'aujourd'hui, n'éclairait plus le jardin de Passy. Or, tout cela, le cadran solaire en était le symbole même. Et c'est pourquoi, tout de suite, je sus où il fallait chercher. Mais l'heure de la recherche, comment l'avez-vous établie?
Tout simplement d'après les tableaux. Un homme vivant à cette époque, comme Charles d'Ernemont, eut inscrit 26 Germinal an 2, ou 15 avril 1794, mais non 15 avril an 2. Je suis stupéfait que personne n'y ait songé.
Le chiffre 2 signifiait donc 2 heures?
Évidemment. Et voici ce qui dut se passer. Le fermier général commença par convertir sa fortune en bonnes espèces d'or et d'argent. Puis, par surcroît de précaution, avec cet or et cet argent, il acheta 18 diamants merveilleux. Surpris par l'arrivée de la patrouille, il s'enfuit dans le jardin. Où cacher les diamants? Le hasard fit que ses yeux tombèrent sur le cadran. Il était 2 heures. L'ombre de la flèche suivait alors la cassure du marbre. Il obéit à ce signe de l'ombre, enfonça dans la poussière les 18 diamants et revint très calmement se livrer aux soldats.
Mais l'ombre de la flèche se rencontre tous les jours à 2 heures avec la cassure du marbre, et non pas seulement le 15 avril.
Vous oubliez, mon cher, qu'il s'agit d'un fou, et que lui n'a retenu que cette date, le 15 avril.
Soit, mais vous, du moment que vous aviez déchiffré l'énigme, il vous était facile, depuis un an, de vous introduire dans l'enclos et de dérober les diamants.
Très facile. Et je n'eusse certes pas hésité si j'avais eu affaire à d'autres gens. Mais vrai, ces malheureux m'ont fait pitié. Et puis, vous connaissez cet idiot de Lupin. L'idée d'apparaître tout d'un coup en génie bienfaisant et dépasser son semblable lui ferait commettre toutes les bêtises.
Bah, m'écriai-je, la bêtise n'est pas si grande. 6 beaux diamants. Voilà un contrat que les héritiers d'Ernemont ont dû remplir avec joie.
Lupin me regarda, et soudain, éclatant de rire.
Vous ne savez donc pas? Ah! Celle-là est bien bonne. La joie des héritiers d'Ernemont. Mais mon cher ami, le lendemain, ce brave capitaine Janniot avait autant d'ennemis mortels. Le lendemain, les 2 sœurs maigres et le gros monsieur organisaient la résistance. Le contrat? Aucune valeur, puisque, et c'était facile à le prouver, il n'y avait point de capitaine Janniot. Le capitaine Janniot? D'où sort cet aventurier? Qu'il nous attaque, et l'on verra.
Louise d'Ernemont, elle-même?
Non. Louise d'Ernemont protesta contre cette infamie. Mais que pouvait-elle? D'ailleurs, devenue riche, elle retrouva son fiancé. Je n'entendis plus parler d'elle.
Et alors?
Et alors, mon cher ami, pris au piège, légalement impuissant, j'ai dû transiger et accepter pour ma part un modeste diamant, le plus petit et le moins beau. Allez donc vous mettre en 4 pour rendre service à votre prochain. »
Et Lupin bougonna entre ses dents.
Ah! La reconnaissance! Quelle fumisterie! Heureusement que les honnêtes gens ont pour eux leur conscience et la satisfaction du devoir accompli.
Fin du chapitre 3.
Chapitre 4 de Les confidences d'Arsène Lupin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par François, Les confidences d'Arsène Lupin, par Maurice Leblanc, chapitre 4. Le piège infernal. Après la course, un flot de personnes qui s'écoulaient vers la sortie de la tribune ayant passé contre lui, Nicolas Dugrival porta vivement la main à la poche intérieure de son veston. Sa femme lui dit « Qu'est-ce que tu as ?»«
Je suis toujours inquiet, avec cet argent. J'ai peur d'un mauvais coup. »
Elle murmura « Aussi, je ne te comprends pas. Est-ce qu'on garde sur soi une pareille somme? Toute notre fortune? Nous avons eu pourtant assez de mal à la gagner. »«
Bah » dit-il. Est-ce qu'on sait qu'elle est là, dans ce portefeuille ?»«
mais si » bougonna-t-elle. « Tiens, le petit domestique que nous avons renvoyé la semaine dernière le savait parfaitement. N'est-ce pas, Gabriel ?»«
Oui, ma tante, » fit un jeune homme qui se tenait à ses côtés.
Les époux Dugrival et leur neveu Gabriel étaient très connus sur les hippodromes, où les habitués les voyaient presque chaque jour. Dugrival, gros homme au teint rouge, l'aspect d'un bon vivant, sa femme, lourde également, le masque vulgaire, toujours vêtu d'une robe de soie prune
dont l'usure était trop visible. Le neveu, tout jeune, mince, la figure pâle, les yeux noirs, les cheveux blonds et un peu bouclés. En général, le ménage restait assis pendant toute la réunion. C'était Gabriel, qui jouait pour son oncle, surveillant les chevaux au paddock, recueillant des tuyaux de droite et de gauche parmi les groupes des jockeys et des lades, faisant la navette entre les tribunes et le parti mutuel. La chance, ce jour-là, leur fut favorable, car trois fois, les voisins de Dugrival virent le jeune homme qui lui rapportait de l'argent. La cinquième course se terminait. Dugrival alluma un cigare. À ce moment, un monsieur sanglé dans une jaquette marron et dont le visage se terminait par une barbiche grisonnante s'approcha de lui et demanda d'un ton de confidence. « Ce n'est pas à vous, monsieur, qu'on aurait volé ceci ?» Il exhibait en même temps une montre en or munie de sa chaîne. Dugrival sursauta. « mais oui, c'est à moi. Tenez, mes initiales sont gravées. N.D. Nicolas Dugrival. » Et aussitôt, il plaqua la main sur la poche de son veston avec un geste d'effroi. Le portefeuille s'y trouvait encore. « Ah » fit-il bouleversé. « J'ai eu de la chance. Mais tout de même, comment a-t-on pu... Connaît-on le coquin ?»« Oui, nous le tenons. Il est au poste. Veuillez avoir l'obligeance de me suivre. Nous allons éclaircir cette affaire. » « À qui ai-je l'honneur ?»« Monsieur Delangle, inspecteur de la Sûreté. J'ai déjà prévenu Monsieur Marken, l'officier de paix. » Nicolas Dugrival sortit avec l'inspecteur et tous deux, contournant les tribunes, se dirigèrent vers le commissariat. Ils en étaient à une cinquantaine de pas quand l'inspecteur fut abordé par quelqu'un qui lui dit en hâte « Le type à la montre a bavardé. Nous sommes sur la piste de toute une bande. Monsieur Marken vous prie d'aller l'attendre au pari mutuel et de surveiller les alentours de la quatrième baraque. » Il y avait foule devant le pari mutuel et l'inspecteur Delangle maugréa. « C'est idiot, ce rendez-vous. Et puis, qui dois-je surveiller? Monsieur Marken n'en fait jamais d'autre. » Il écarta des gens qui le pressaient de trop près. « Fichtre, il faut jouer des coudes et tenir son porte-monnaie. C'est comme cela que vous avez été pincé, monsieur Dugrival. » « Je ne m'explique pas. » « Oh, si vous saviez comment ces messieurs opèrent, on n'y voit que du feu. L'un vous marche sur le pied, l'autre vous éborgne avec sa canne, et le troisième vous subtilise votre portefeuille. En trois gestes, c'est fini. Moi qui vous parle, j'y ai été pris. » Il s'interrompit, et d'un air furieux. « Mais sacré nom, nous n'allons pas moisir ici. Quelle cohue! Ce n'est pas supportable. Ah! Monsieur Marken, là-bas, qui nous fait signe. Un moment, je vous prie, et surtout, ne bougez pas. » À coups d'épaule, il se fraya un passage dans la foule. Nicolas Dugrival le suivit un instant des yeux. L'ayant perdu de vue, il se tint un peu à l'écart pour n'être point bousculé. Quelques minutes s'écoulèrent. La sixième course allait commencer lorsque Dugrival aperçut sa femme et son neveu qui le cherchaient. Il leur expliqua que l'inspecteur Delangle se concertait avec l'officier de paix. « Tu as toujours ton argent ?» lui demanda sa femme. « Parbleu ! » répondit-il. « Je te jure que l'inspecteur et moi, nous ne nous laissions pas serrer de trop près. » Il tâta son veston, étouffa un cri, enfonça la main dans sa poche et se mit à bredouiller des syllabes confuses tandis que Madame Dugrival, épouvantée, bégayait. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?»« Voler ! » gémit-il. « Le portefeuille, les 50 billets !»« Pas vrai ! » s'exclama-t-elle. « Pas vrai ! » !»« Si ! L'inspecteur ! Un escroc, c'est lui !» Elle poussa de véritables hurlements. « Au voleur! On a volé mon mari! 50 000 francs! Nous sommes perdus! Au voleur !» Très vite, ils furent entourés d'agents et conduits au commissariat. Dugrival se laissait faire, absolument ahuri. Sa femme continuait à vociférer, accumulant des explications, poursuivant d'invectives le faux inspecteur. « Qu'on le cherche! Qu'on le trouve! Une jaquette marron, la barbe en pointe! Ah ! Le misérable, ce qu'il nous a roulé! 50 000 francs! Mais, qu'est-ce que tu fais, Dugrival ?» D'un bond, elle se jeta sur son mari. Trop tard. Il avait appliqué contre sa tempe le canon d'un revolver. Une détonation retentit. Dugrival tomba. Il était mort. On n'a pas oublié le bruit que firent les journaux à propos de cette affaire, et comment ils saisirent l'occasion pour accuser une fois de plus la police d'incurie et de maladresse. Était-il admissible qu'un pickpocket pût ainsi, en plein jour et dans un endroit public, jouer le rôle d'inspecteur et dévaliser impunément un honnête homme? La femme de Nicolas Dugrival entretenait les polémiques par ses lamentations et les interviews qu'elle accordait. Un reporter avait réussi à la photographier devant le cadavre de son mari, tandis qu'elle étendait la main et qu'elle jurait de venger le mort. Debout, près d'elle, son neveu Gabriel montrait un visage haineux. Lui aussi, en quelques mots prononcés à voix basse et d'un ton de décision farouche, avait fait le serment de poursuivre et d'atteindre le meurtrier. On dépeignait le modeste intérieur qu'ils occupaient aux Batignolles, et, comme ils étaient dénués de toute ressource, un journal de sport ouvrit une souscription en leur faveur. Quant au mystérieux de l'angle, il demeurait introuvable. Deux individus furent arrêtés, que l'on dut relâcher aussitôt. On se lança sur plusieurs pistes, immédiatement abandonnées. On mit en avant plusieurs noms, et finalement, on accusa Arsène Lupin, qui provoqua la fameuse dépêche du célèbre cambrioleur, dépêche envoyée de New York 6 jours après l'incident. Proteste avec indignation contre calomnie inventée par une police aux abois. Envoie mes condoléances aux malheureuses victimes et donne à mon banquier ordre nécessaire pour que 50 000 francs leur soient remis. Lupin. De fait, le lendemain même du jour où ce télégramme était publié, un inconnu sonnait à la porte de Madame Dugrival et déposait une enveloppe entre ses mains. L'enveloppe contenait 50 billets de 1 000 francs. Ce coup de théâtre n'était point fait pour apaiser les commentaires. Mais un autre événement se produisit qui suscita de nouveau une émotion considérable. 2 jours plus tard, les personnes qui habitaient la même maison que Madame Dugrival et que Gabriel furent réveillées vers 4 heures du matin par des cris affreux. On se précipita. Le concierge réussit à ouvrir la porte. À la lueur d'une bougie dont un voisin s'était muni, il trouva dans sa chambre Gabriel, étendu, des liens aux poignets et aux chevilles, un bâillon sur la bouche, et dans la chambre voisine, Madame Dugrival, qui perdait tout son sang par une large blessure à la poitrine. Elle murmura « L'argent, on m'a volé, tous les billets !» et elle s'évanouit. Que s'était-il passé ? Gabriel raconta, et dès qu'elle fut capable de parler, Madame Dugrival compléta le récit de son neveu, qu'il avait été réveillé par l'agression de 2 hommes, dont l'un le bâillonnait, tandis que l'autre l'enveloppait de liens. Dans l'obscurité, il n'avait pu voir ces hommes, mais il avait entendu le bruit de la lutte que sa tante soutenait contre eux. « Lutte effroyable !» déclara Madame Dugrival. Connaissant évidemment les lieux, guidés par on ne sait quelle intuition, les bandits s'étaient dirigés aussitôt vers le petit meuble qui renfermait l'argent, et malgré la résistance qu'elle avait opposée, malgré ses cris, faisaient main basse sur la liasse de billets. En partant, l'un d'eux, qu'elle mordait au bras, l'avait frappé d'un coup de couteau, puis il s'était enfui. « Par où ? » lui demanda-t-on. « Par la porte de ma chambre, et ensuite, je suppose, par celle du vestibule. »« Impossible ! Le concierge les aurait surpris. » Car tout le mystère résidait en ceci. Comment les bandits avaient-ils pénétré dans la maison et comment avaient-ils pu en sortir? Aucune issue ne s'offrait à eux. Était-ce un des locataires? Une enquête minutieuse prouva l'absurdité d'une telle supposition. Alors, l'inspecteur principal Ganimard, qui fut chargé plus spécialement de cette affaire, avoua qu'il n'en connaissait pas de plus déconcertante. « C'est fort comme du Lupin, » disait-il. Et cependant, ce n'est pas du Lupin. Non, il y a autre chose là-dessous, quelque chose d'équivoque, de louche. D'ailleurs, si c'était du Lupin, pourquoi aurait-il repris les 50 000 francs qu'il avait envoyés? Autre question qui m'embarrasse, quel rapport y a-t-il entre ce second vol et le premier, celui du champ de course? Tout cela est incompréhensible, et j'ai l'impression, ce qui m'arrive rarement, qu'il est inutile de chercher. Pour ma part, j'y renonce. Le juge d'instruction s'acharna. Les reporters unirent leurs efforts à ceux de la justice. Un célèbre détective anglais passa le détroit. Un riche Américain, auquel les histoires policières tournaient la tête, offrit une prime importante à quiconque apporterait un premier élément de vérité. 6 semaines après, on n'en savait pas davantage. Le public se rangeait à l'opinion de Ganimard et le juge d'instruction lui-même était là de se débattre dans les ténèbres que le temps ne pouvait qu'épaissir. Et la vie continua chez la veuve Dugrival. Soignée par son neveu, elle ne tarda pas à se remettre de sa blessure. Le matin, Gabriel l'installait dans un fauteuil de la salle à manger, près de la fenêtre, faisait le ménage et se rendait ensuite aux provisions. Il préparait le déjeuner sans même accepter l'aide de la concierge. Excédé par les enquêtes de la police et surtout par les demandes d'interview, la tante et le neveu ne recevaient personne. La concierge elle-même, dont les bavardages inquiétaient et fatiguaient Madame Dugrival, ne fut plus admise. Elle se rejetait sur Gabriel, l'apostrophant chaque fois qu'il passait devant la loge. « Faites attention, monsieur Gabriel, on vous espionne tous les deux. Il y a des gens qui vous guettent. Tenez, encore hier soir, mon mari a surpris un type qui lorgnait vos fenêtres. » « Bah !» répondit Gabriel. « C'est la police qui nous garde. Tant mieux !» Or, un après-midi, vers 4 heures, il y eut au bout de la rue une violente altercation entre deux marchands des 4 saisons. La concierge aussitôt s'éloigna de sa loge pour écouter les invectives que se lançaient les adversaires. Elle n'avait pas le dos tourné qu'un homme jeune, de taille moyenne, habillé de vêtements gris d'une coupe irréprochable, se glissa dans la maison et monta vivement l'escalier. Au 3e étage, il sonna. Son appel demeurant sans réponse, il sonna de nouveau. À la 3e fois, la porte s'ouvrit. « Madame Dugrival ? » demanda-t-il en retirant son chapeau. « Madame Dugrival est encore souffrante et ne peut recevoir personne, » riposta Gabriel qui se tenait dans l'antichambre. « Il est de toute nécessité que je lui parle. Je suis son neveu. Je pourrais peut-être lui communiquer... « Soit, » dit l'individu. « Veuillez dire à Madame Dugrival que, le hasard m'ayant fourni des renseignements précieux sur le vol dont elle a été victime, je désire examiner l'appartement et me rendre compte par moi-même de certains détails. Je suis très accoutumé à ces sortes d'enquêtes, et mon intervention lui sera sûrement profitable. » Gabriel l'examina un moment, réfléchit et prononça. « En ce cas, je suppose que ma tante consentira. Prenez la peine d'entrer. » Après avoir ouvert la porte de la salle à manger, il s'effaça, livrant passage à l'inconnu. Celui-ci marcha jusqu'au seuil, mais à l'instant même où il le franchissait, Gabriel leva le bras et, d'un geste brusque, le frappa d'un coup de poignard au-dessus de l'épaule droite. Un éclat de rire jaillit dans la salle. « Touché !» cria Madame Dugrival en s'élançant de son fauteuil. « Bravo, Gabriel ! Mais dis donc, tu ne l'as pas tué, le bandit ?»« Je ne crois pas, ma tante. » La lame est fine et j'ai retenu mon coup. » L'homme chancelait, les mains en avant, le visage d'une pâleur mortelle. « Imbécile ! » ricana la veuve. « Tu es tombé dans le piège. Pas malheureux. Il y a assez longtemps qu'on t'attendait ici. Allons, mon bonhomme, dégringole. Ça t'embête, hein ? Faut bien, cependant. Parfait. Un genou à terre d'abord, devant la patronne. Et puis l'autre genou. Ce qu'on est bien éduqué. Patatras. Voilà qu'on s'écroule. Ah, Jésus-Dieu, si mon pauvre Dugrival pouvait le voir ainsi. Et maintenant, Gabriel, à la besogne. » Elle gagna sa chambre et ouvrit le battant d'une armoire à glace où des robes étaient pendues. Les ayant écartées, elle poussa un autre battant qui formait le fond de l'armoire et qui dégagea l'entrée d'une pièce située dans la maison voisine. « Aide-moi à le porter, Gabriel, et tu le soigneras de ton mieux, hein ? Pour l'instant, il vaut son pesant d'or, l'artiste. » Un matin, le blessé reprit un peu conscience. Il souleva les paupières et regarda autour de lui. Il était couché dans une pièce plus grande que celle où il avait été frappé, une pièce garnie de quelques meubles et munie de rideaux épais qui voilaient les fenêtres du haut en bas. Cependant, il y avait assez de lumière qu'il put voir près de lui, assis sur une chaise et l'observant, le jeune Gabriel Dugrival. « Ah, c'est toi le gosse » murmura-t-il. « Tous mes compliments, mon petit. Tu as le poignard sûr et délicat. » Et il se rendormit. Ce jour-là, et les jours qui suivirent, il se réveilla plusieurs fois, et chaque fois, il apercevait la figure pâle de l'adolescent, ses lèvres minces, ses yeux noirs d'une expression si dure. « Tu me fais peur, » disait-il. « Si tu as juré de m'exécuter, ne te gêne pas. Mais rigole. L'idée de la mort m'a toujours semblé la chose du monde la plus cocasse. Tandis qu'avec toi, mon vieux, ça devient macabre. Bonsoir, j'aime mieux faire dodo. » Pourtant, Gabriel, obéissant aux ordres de Madame Dugrival, lui prodiguait des soins attentifs. Le malade n'avait presque plus de fièvre et commençait à s'alimenter de lait et de bouillon. Il reprenait quelques forces et plaisantait. « À quand la première sortie du convalescent? La petite voiture est prête? Mais rigole donc, animal! Tu as l'air d'un saule pleureur qui va commettre un crime. Allons, une risette à papa !» Un jour, en s'éveillant, il eut une impression de gêne fort désagréable. Après quelques efforts, il s'aperçut que pendant son sommeil, on lui avait attaché les jambes, le buste et les bras au fer du lit, et cela par de fines cordelettes d'acier qui lui entraient dans la chair au moindre mouvement. « Ah ! » dit-il à son gardien, « cette fois, c'est le grand jeu. Le poulet va être saigné. Est-ce toi qui m'opères, l'ange Gabriel ? En ce cas, mon vieux, que ton rasoir soit bien propre. Service antiseptique, s'il vous plaît. » Mais il fut interrompu par le bruit d'une serrure qui grince. La porte en face de lui s'ouvrit et Madame Dugrival apparut. Lentement, elle s'approcha, prit une chaise et sortit de sa poche un revolver qu'elle arma et qu'elle déposa sur la table de nuit. « Bon !» murmura le captif. « On se croirait à l'ambigu. Quatrième acte, le jugement du traître. Et c'est le beau sexe qui exécute. La main des grâces. Quel honneur ! Madame Dugrival, je compte sur vous pour ne pas me défigurer. »« Tais-toi, Lupin !»« Ah ! Vous savez, bigre, on a du flair !» « Tais-toi, Lupin !» Il y avait dans le son de sa voix quelque chose de solennel qui impressionna le captif et le contraignit au silence. Il observa l'un après l'autre ses deux geôliers. Les traits bouffis, le teint rouge de Madame Dugrival, contrastaient avec le visage délicat de son neveu, mais tous deux avaient le même air de résolution implacable. La veuve se pencha et lui dit « Es-tu prête à répondre à mes questions ? Pourquoi pas ?» Alors, écoute-moi bien. Je suis tout oreille. Comment as-tu su que Dugrival portait tout son argent dans sa poche? Un bavardage de domestique. Un petit domestique qui a servi chez moi, n'est-ce pas? Oui. Et c'est toi qui as d'abord volé la montre de Dugrival pour la lui rendre ensuite et lui inspirer confiance? Oui. Elle réprima un mouvement de rage. Imbécile! Mais oui, imbécile! Comment tu dépouilles mon homme, tu l'accules à se tuer, et au lieu de ficher le camp à l'autre bout du monde et de te cacher, tu continues à faire le Lupin en plein Paris. Tu ne te rappelais donc plus que j'avais juré, sur la tête même du mort, de retrouver l'assassin? C'est cela qui m'épate, dit Lupin. Pourquoi m'avoir soupçonné? Pourquoi? Mais c'est toi-même qui t'es vendu. Moi? Évidemment, les 50 000 francs. Eh bien, quoi, un cadeau? Oui, un cadeau. Que tu donnes l'ordre, par télégramme, de m'envoyer pour faire croire que tu étais en Amérique le jour des courses. Un cadeau, la bonne blague. C'est-à-dire, n'est-ce pas, que ça te tracassait, l'idée de ce pauvre type que tu avais assassiné. Alors, tu as restitué l'argent à la veuve, ouvertement, bien entendu. Parce qu'il y a la galerie, et qu'il faut toujours que tu fasses du battage, comme un cabotin que tu es. À merveille! Seulement, mon bonhomme, dans ce cas, il ne fallait pas qu'on me remette les billets même volés à Dugrival. Oui, triple idiot, ceux-là même et pas d'autres. Nous avions les numéros, Dugrival et moi. Et tu es assez stupide pour m'adresser le paquet. Comprends-tu ta bêtise maintenant ? Lupin se mit à rire. La gaffe est gentille. Je n'en suis pas responsable. J'avais donné d'autres ordres, mais, tout de même, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Hein ? Tu l'avoues ? C'était signé ton vol et c'était signé ta perte aussi. Il n'y avait plus qu'à te trouver. À te trouver? Non, mieux que cela. On ne trouve pas Lupin, on le fait venir. Ça, c'est une idée de maître. Elle est de mon gosse de neveu, qui t'exècre autant que moi, si possible, et qui te connaît à fond par tous les livres qui ont été écrits sur toi. Il connaît ta curiosité, ton besoin d'intrigue, ta manie de chercher dans les ténèbres et de débrouiller ce que les autres n'ont pas réussi à débrouiller. Il connaît aussi cette espèce de fausse bonté qui est la tienne, la sensiblerie bébête qui te fait verser des larmes de crocodile sur tes victimes. Et il a organisé la comédie. Il a inventé l'histoire des deux cambrioleurs. Le second vol des 50 000 francs. Ah ! Je te jure, Dieu, que le coup de couteau que je me suis fichu de mes propres mains ne m'a pas fait mal. Et je te jure, Dieu, que nous avons passé de jolis moments à t'attendre, le petit et moi, à lorgner tes complices qui rôdaient sous nos fenêtres et qui étudiaient la place. Et pas d'erreur, tu devais venir. Puisque tu avais rendu les 50 000 francs à la veuve du Grival, il n'était pas possible que tu admettes que la veuve du Grival soit dépouillée de ses 50 000 francs. Tu devais venir par gloriole, par vanité, et tu es venu. » La veuve eut un rire strident. « Hein ? Est-ce bien joué, cela ? Le lupin des lupins, le maître des maîtres, l'inaccessible et l'invisible. Le voilà pris au piège par une femme et par un gamin. Le voilà en chair et en os. Le voilà pieds et poings liés, pas plus dangereux qu'une mauviette. Le voilà ! Le voilà !» Elle tremblait de joie et elle se mit à marcher à travers la chambre avec des allures de bête fauve qui ne lâche pas de l'œil sa victime. Et jamais Lupin n'avait senti dans un être plus de haine et de sauvagerie. « Assez bavardé !» dit-elle. Se contenant soudain, elle retourna près de lui, et sur un ton tout différent, la voix sourde, elle scanda. « Depuis 12 jours, Lupin, et grâce au papier qui se trouvait dans ta poche, j'ai mis le temps à profit. Je connais toutes tes affaires, toutes tes combinaisons, tous tes faux noms, toute l'organisation de ta bande. » Tous les logements que tu possèdes dans Paris et ailleurs. J'ai même visité l'un d'eux, le plus secret, celui où tu caches tes papiers, tes registres et l'histoire détaillée de tes opérations financières. Le résultat de mes recherches ? Pas mauvais. Voici 4 chèques détachés de 4 carnets et qui correspondent à 4 comptes que tu as dans des banques sous 4 noms différents. Sur chacun d'eux, j'ai inscrit la somme de 10 000 francs. Davantage eût été périlleux. Maintenant, « signe. »«
Bigre, » dit Lupin avec ironie, « c'est tout bonnement du chantage, honnête Madame Grival. »«
Cela te suffoque, hein ?»«
Cela me suffoque. »«
Et tu trouves l'adversaire à ta hauteur ?»«
L'adversaire me dépasse. »« Alors le piège, qualifions-le d'infernal, le piège infernal où je suis tombé ne fut pas tendu seulement par une veuve altérée de vengeance, mais aussi par une excellente industrielle désireuse d'augmenter ses capitaux. »
« Justement.
Mes félicitations. Et j'y pense. Est-ce que par hasard, monsieur Dugrival ?»«
Tu l'as dit, Lupin. Après tout, pourquoi te le cacher ? Ça soulagera ta conscience. »« Oui, Lupin. Dugrival travaillait dans la même partie que toi. Oh, pas en grand. Nous étions des modestes. Une pièce d'or de ci, de là. Un porte-monnaie que Gabriel, dressé par nous, chipait aux courses de droite et de gauche. » Et de la sorte, on avait fait sa petite fortune. De quoi planter des choux.
« J'aime mieux cela, » dit Lupin.
« Tant mieux. Si je t'en parle, moi, c'est pour que tu saches bien que je ne suis pas une débutante et que tu n'as rien à espérer. Un secours ? Non. L'appartement où nous sommes communique avec ma chambre. Il y a une sortie particulière et personne ne s'en doute. C'était l'appartement spécial de Dugrival. Il y recevait ses amis. » Il y avait ses instruments de travail, ses déguisements, son téléphone même, comme tu peux voir. Donc, rien à espérer. Tes complices ont renoncé à te chercher par là. Je les ai lancés sur une autre piste. Tu es bien fichu. Commences-tu à comprendre la situation ?
Oui.
Alors, signe.
Et quand j'aurai signé, je serai libre ?
Il faut que je touche d'abord.
Et après ?
Après, sur mon âme, sur mon salut éternel, tu seras libre.
Je manque de confiance.
C'est vrai. Donne.
Elle détacha la main droite de Lupin et lui présenta une plume en disant
« N'oublie pas que les 4 chèques portent 4 noms différents et que chaque fois, l'écriture change.
Ne crains rien. »
Il signa. « Gabriel, » ajouta la veuve, « il est 10 heures. Si à midi je ne suis pas là, c'est que ce misérable m'aura joué un tour de sa façon. Alors, « casse-lui la tête. Je te laisse le revolver avec lequel ton oncle s'est tué. Sur 6 balles, il en reste 5. Ça suffit. »
Elle partit en chantonnant. Il y eut un assez long silence et Lupin marmotta.
« Je ne donnerai pas 2 sous de ma peau. Il ferma les yeux un instant, puis brusquement dit à Gabriel « Combien ?» Et comme l'autre ne semblait pas entendre, il s'irrita. « Eh, oui, combien ? Réponds, quoi ! Nous avons tous le même métier, tous deux. Je vole, tu voles, nous volons. Alors, on est fait pour s'accorder, hein ? Ça va ? Nous décampons ? Je t'offre une place dans ma bande, une place de luxe. Combien veux-tu pour toi ? 10 000 ? 20 000 ? Fixe ton prix et n'y regarde pas. Le coffre est plein. »
Il eut un frisson de colère en voyant le visage impassible de son gardien.
« Ah ! Il ne répondra même pas. Voyons, quoi ? Tu l'aimais tant que ça, le Dugrival ? Écoute, si tu veux me délivrer, allons, réponds !»
Mais il s'interrompit. Les yeux du jeune homme avaient cette expression cruelle qu'il connaissait si bien. Pouvait-il espérer le fléchir ?«
Crénom de crénom » grinça-t-il. « Je ne vais pourtant pas crever ici, comme un chien. Ah, si je pouvais !»
Se raidissant, il fit pour rompre ses liens un effort qui lui arracha un cri de douleur et il retomba sur son lit, exténué.
« Allons » murmura-t-il au bout d'un instant. « La veuve l'a dit. Je suis fichu. Rien à faire. De profundis, Lupin. »
Un quart d'heure s'écoula, une demi-heure. Gabriel, s'étant approché de Lupin, vit qu'il tenait les yeux fermés et que sa respiration était égale, comme celle d'un homme qui dort. Mais Lupin lui dit
« Crois pas que je dorme, le gosse. Non, on ne dort pas à cette minute-là. Seulement, je me fais une raison. Faut bien, n'est-ce pas? Et puis, je pense à ce qui va suivre. Parfaitement, j'ai ma petite théorie là-dessus. Tel que tu me vois, je suis partisan de la métempsychose et de la migration des âmes. Mais ce serait un peu long à t'expliquer. Dis donc, petit, avant de se séparer, si on se donnait la main. Non? Alors, adieu. Bonne santé et longue vie, Gabriel. »
Il baissa les paupières, se tut et ne bougea plus jusqu'à l'arrivée de Madame Dugrival. La veuve entra vivement, un peu avant midi. Elle semblait très surexcitée.
« J'ai l'argent, » dit-elle à son neveu. « File, je te rejoins dans l'auto qui est en bas. Mais pas besoin de toi pour en finir avec lui. Je m'en charge à moi toute seule. Pourtant, si le cœur t'en dit de voir la grimace d'un coquin, passe-moi l'instrument. »
Gabriel lui donna le revolver et la veuve reprit.
« Tu as bien brûlé nos papiers. »«
Oui. »«
Allons-y. Et sitôt son compte réglé, au galop. Les coups de feu peuvent attirer les voisins. Il faut qu'on trouve les deux appartements vides. »
Elle s'avança vers le lit.
« Tu es prêt, Lupin ? »
« C'est-à-dire que je brûle d'impatience. »«
Tu n'as pas de recommandation à me faire ? » ?»«
Aucune. » »«
Alors, un mot cependant. » »«
Parle. »
« Si je rencontre Dugrival dans l'autre monde, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise de ta part ?»
Elle haussa les épaules et appliqua le canon du revolver sur la tempe de Lupin.
« Parfait, » dit-il, « et surtout ne tremblez pas, ma bonne dame. Je vous jure que cela ne vous fera aucun mal. Vous y êtes, au commandement, n'est-ce pas ? Une, deux, trois. »
La veuve appuya sur la détente. Une détonation retentit.
« C'est ça, la mort ?» dit Lupin. « Bizarre. J'aurais cru que c'était plus différent de la vie. »
Il y eut une seconde détonation. Gabriel arracha l'arme des mains de sa tante et l'examina.
« Ah ! » fit-il. « On a enlevé les balles. Il ne reste plus que les capsules. »
Sa tante et lui demeurèrent un instant immobiles, confondus.
« Est-ce possible ? » balbutia-t-elle. « Qui aurait pu ? Un inspecteur ? Le juge d'instruction ?»
Elle s'arrêta et d'une voix étranglée.
« Écoute, du bruit !»
Ils écoutèrent, et la veuve alla jusqu'au vestibule. Elle revint, furieuse, exaspérée par l'échec et par la crainte qu'elle avait eue.
« Personne. Les voisins doivent être sortis, nous avons le temps. Ah ! Lupin, tu riais déjà. Le couteau, Gabriel. Il est dans ma chambre. Va le chercher. »
Gabriel s'éloigna en hâte, la veuve trépignait de rage.
« Je l'ai juré. Tu y passeras, mon bonhomme. Je l'ai juré à Dugrival. Et chaque matin et chaque soir, je refais le serment. Je le refais à genoux, oui, à genoux devant Dieu qui m'écoute. C'est mon droit de venger le mort. Ah, dis donc, Lupin, il me semble que tu ne ris plus. Bon sang, mais on dirait même que tu as peur. Il a peur, il a peur, je vois ça dans ses yeux. Gabriel, arrive, mon petit. Regarde ses yeux, regarde ses lèvres. Il tremble. Donne le couteau, que je le lui plante dans le cœur, tandis qu'il a le frisson. Ah, Froussard! Vite, vite, Gabriel, donne le couteau. Impossible de le trouver, déclara le jeune homme qui revenait en courant, tout effaré. Il a disparu de ma chambre, je n'y comprends rien. Tant mieux, cria la veuve Dugrival à moitié folle. Tant mieux, je ferai la besogne moi-même. Elle saisit Lupin à la gorge et l'étreignit de ses 10 doigts crispés à pleine main, à pleine griffe, et elle se mit à serrer désespérément. Lupin eut un râle et s'abandonna. Il était perdu. Brusquement, un fracas du côté de la fenêtre. Une des vitres avait sauté en éclats. « Quoi ? Qu'y a-t-il ? » bégaya la veuve en se relevant bouleversée. Gabriel, plus pâle encore qu'à l'ordinaire, murmura. « Je ne sais pas, je ne sais pas. Comment a-t-on pu ? » répéta la veuve. Elle n'osait bouger, dans l'attente de ce qui allait se produire. Et quelque chose surtout l'épouvantait, c'est que par terre, autour d'eux, il n'y avait aucun projectile, et que la vitre, pourtant, cela était visible, avait cédé au choc d'un objet lourd et assez gros, d'une pierre sans doute. Après un instant, elle chercha sous le lit, sous la commode. « Rien, » dit-elle. « Non, » fit son neveu qui cherchait également. Et elle reprit en s'asseyant à son tour. « J'ai peur. Les bras me manquent. Achève-le. J'ai peur, moi aussi. « Pourtant, pourtant, » bredouilla-t-elle, « il faut bien, j'ai juré. » Dans un effort suprême, elle retourna près de Lupin et lui entoura le cou de ses doigts raidis. Mais Lupin, qui scrutait son visage blême, avait la sensation très nette qu'elle n'aurait pas la force de le tuer. Pour elle, il devenait sacré, intangible. Une puissance mystérieuse le protégeait contre toutes les attaques, une puissance qu'il avait déjà sauvée 3 fois par des moyens inexplicables et qui trouverait d'autres moyens pour écarter de lui les embûches de la mort. Elle lui dit à voix basse, « Ce que tu dois te ficher de moi !»« Ma foi, pas du tout. À ta place, j'aurais une venette. »« Fripouille, va! Tu t'imagines qu'on te secourt? Que tes amis sont là, hein? Impossible, mon bonhomme !»« Je le sais. Ce n'est pas eux qui me défendent. Personne même ne me défend. »« Alors ?»« Alors, tout de même, il y a quelque chose d'étrange là-dessous, de fantastique, de miraculeux, qui te donne la chair de poule, ma bonne femme. Misérable, tu ne riras plus bientôt. Ça m'étonnerait. Patiente. » Elle réfléchit encore et dit à son neveu. « Qu'est-ce que tu ferais ? » ?»« Rattache-lui le bras et allons-nous-en, » répondit-il. Conseil atroce. C'était condamner Lupin à la mort la plus affreuse, la mort par la faim. « Non, » dit la veuve, « il trouverait peut-être encore une planche de salut. J'ai mieux que cela. » Elle décrocha le récepteur du téléphone. Ayant obtenu la communication, elle demanda « Le numéro 822-48, s'il vous plaît. » Et après un instant, « Allô ? Le service de la sûreté ? Monsieur l'inspecteur principal Ganimard est-il ici ? Pas avant 20 minutes ? Dommage. Enfin, quand il sera là, vous lui direz ceci de la part de Madame Dugrival. Oui, Madame Nicolas Dugrival. Vous lui direz qu'il vienne chez moi. Il ouvrira la porte de mon armoire à glace, et cette porte ouverte, il constatera que l'armoire cache une issue qui fait communiquer ma chambre avec 2 pièces. Dans l'une d'elles, il y a un homme solidement ligoté. C'est le voleur, l'assassin de Dugrival. Vous ne me croyez pas ? Avertissez Monsieur Ganimard. Il me croira, lui. Ah ! J'oubliais le nom de l'individu. Arsène Lupin. » Et sans un mot de plus, elle raccrocha le récepteur. « Voilà qui est fait, Lupin. Au fond, j'aime autant cette vengeance. Ce que je vais me tordre en suivant les débats de l'affaire Lupin. Tu viens, Gabriel ? » ?»« Oui, ma tante. » »« Adieu, Lupin. On ne se reverra sans doute pas, car nous passons à l'étranger. » Mais je te promets de t'envoyer des bonbons quand tu seras au bagne. Des chocolats, la mère. Nous les mangerons ensemble. Adieu. Au revoir. » La veuve sortit avec son neveu, laissant Lupin enchaîné sur le lit. Tout de suite, il remua son bras libre et tâcha de se dégager. Mais à la première tentative, il comprit qu'il n'aurait jamais la force de rompre les cordons d'acier qui le liaient. épuisé par la fièvre et par l'angoisse. Que pouvait-il faire durant les 20 ou 30 minutes peut-être qui lui restaient avant l'arrivée de Ganimard? Il ne comptait pas davantage sur ses amis. Si 3 fois il avait été sauvé de la mort, cela provenait évidemment de hasards prodigieux, mais non point d'une intervention de ses amis. Sans quoi, ils ne se fussent pas contentés de ces coups de théâtre invraisemblables. Ils l'eussent bel et bien délivré. Non, il fallait renoncer à toute espérance. Ganimard venait, Ganimard le trouverait là. C'était inévitable. C'était un fait accompli. Et la perspective de l'événement l'irritait d'une façon singulière. Il entendait déjà les sarcasmes de son vieil ennemi. Il devinait l'éclat de rire qui le lendemain accueillerait l'incroyable nouvelle. Qu'il fût arrêté en pleine action, sur le champ de bataille, pour ainsi dire, et par une escouade imposante d'adversaires, soit. Mais arrêté, cueilli plutôt, ramassé dans de telles conditions, c'était vraiment trop stupide. Et Lupin, qui tant de fois avait bafoué les autres, sentait tout ce qu'il y avait de ridicule pour lui dans le dénouement de l'affaire Dugrival. Tout ce qu'il y avait de grotesque à s'être laissé prendre au piège infernal de la veuve et, en fin de compte, à être servi à la police comme un plat de gibier, cuit à point et savamment assaisonné. « Sacrée veuve » bougonna-t-il. « Elle aurait mieux fait de m'égorger tout simplement. » Il prêta l'oreille. Quelqu'un marchait dans la pièce voisine. « Ganimard ? » ?»« Non. » Quelle que fût sa hâte, l'inspecteur ne pouvait encore être là. Et puis, Ganimard n'eût pas agi de cette manière, n'eût pas ouvert la porte aussi doucement que l'ouvrait cette autre personne. Lupin se rappela les 3 interventions miraculeuses auxquelles il devait la vie. Était-il possible que ce fût réellement quelqu'un qui l'eût protégé contre la veuve et que ce quelqu'un entreprît maintenant de le secourir? Mais qui, en ce cas? Sans que Lupin réussît à le voir, l'inconnu se baissa derrière le lit. Lupin devina le bruit des tenailles qui s'attaquaient aux cordelettes d'acier et qui le délivraient peu à peu. Son buste d'abord fut dégagé, puis les bras, puis les jambes. Et une voix lui dit « Il faut vous habiller !» Très faible, il se souleva à demi au moment où l'inconnu se redressait. « Qui êtes-vous » murmura-t-il. « Qui êtes-vous ? » Et une grande surprise l'envahit. À côté de lui, il y avait une femme, vêtue d'une robe noire et coiffée d'une dentelle qui recouvrait une partie de son visage. Et cette femme, autant qu'il pouvait en juger, était jeune et de taille élégante et mince. « Qui êtes-vous » répéta-t-il. « Il faut venir, » dit la femme. « Le temps presse. »« Est-ce que je peux ?» dit Lupin en faisant une tentative désespérée. « Je n'ai pas la force. Buvez cela. » Elle versa du lait dans une tasse, et comme elle la lui tendait, sa dentelle s'écarta, laissant la figure à découvert. « Toi, c'est toi » balbutia-t-il. « C'est vous qui êtes ici. C'est vous qui étiez. » Il regarda stupéfié cette femme dont les traits offraient, avec ceux de Gabriel, une si frappante analogie, dont le visage, délicat et régulier, avait la même pâleur, dont la bouche avait la même expression dure et antipathique. Une sœur n'eût pas présenté avec un frère une telle ressemblance. À n'en pas douter, c'était le même être. Et sans croire un instant que Gabriel se cachât sous des vêtements de femme, Lupin, au contraire, eut l'impression profonde qu'une femme était auprès de lui et que l'adolescent qu'il avait poursuivi de sa haine et qu'il avait frappé d'un coup de poignard était bien vraiment une femme. Pour l'exercice plus commode de leur métier, les époux Dugrival l'avait accoutumé à ce déguisement de garçon. « Vous, vous » répétait-il, « qui se serait douté ?» Elle vida dans la tasse le contenu d'une petite fiole. « Buvez ce cordial, » dit-elle. Il hésita, pensant à du poison. Elle reprit. « C'est moi qui vous ai sauvé. »« en effet, » dit-il, « c'est vous qui avez désarmé le revolver. »« Oui. Et c'est vous qui avez dissimulé le couteau. » »« Le voici. » dans ma poche. Et c'est vous qui avez brisé la vitre au moment où votre tante m'étranglait. C'est moi, avec le presse-papier qui était sur cette table et que j'ai jeté dans la rue. Mais pourquoi? Pourquoi? Demanda-t-il absolument interdit. Buvez. Vous ne vouliez donc pas que je meure? Mais alors, pourquoi m'avez-vous frappé au début? Buvez.
il vida la tasse d'un trait, sans trop savoir la raison de sa confiance subite. « Habillez-vous, rapidement » ordonna-t-elle, en se retirant du côté de la fenêtre. Il obéit, et elle revint près de lui, car il était retombé sur une chaise exténuée. « Il faut partir, il le faut, nous n'avons que le temps. Rassemblez toutes vos forces !» Elle se courba un peu pour qu'il s'appuyât à son épaule, et elle le mena vers la porte et vers l'escalier. Et Lupin marchait, marchait, comme on marche dans un rêve, dans un de ces rêves bizarres où il se passe les choses du monde les plus incohérentes et qui étaient la suite heureuse du cauchemar épouvantable qu'il vivait depuis 2 semaines. Une idée cependant l'effleura. Il se mit à rire. « Pauvre Ganimard, vraiment, il n'a pas de veine. Je donnerais bien 2 sous pour assister à mon arrestation. » Après avoir descendu l'escalier, grâce à sa compagne qui le soutenait avec une énergie incroyable, il se trouva dans la rue, en face d'une automobile, où elle le fit monter. « Allez !» dit-elle au chauffeur. Lupin, que le grand air et le mouvement étourdissaient, se rendit à peine compte du trajet et des incidents qui le marquaient. Il reprit toute sa connaissance chez lui, dans un des domiciles qu'il occupait, et gardé par un de ses domestiques auxquels la jeune femme donnait des instructions. « Va-t'en » dit-elle au domestique. Et comme elle s'éloignait également, il la retint par un pli de sa robe. « Non, non, il faut m'expliquer d'abord. Pourquoi m'avez-vous sauvé? C'est à l'insu de votre tante que vous êtes revenu. Mais pourquoi m'avez-vous sauvé? Par pitié !» Elle se taisait, et le buste droit, la tête un peu renversée, elle conservait cet air énigmatique et dur. Pourtant, il crut voir que le dessin de sa bouche offrait moins de cruauté que d'amertume. Ses yeux, ses beaux yeux noirs, révélaient de la mélancolie. Et Lupin, sans comprendre encore, avait l'intuition confuse de ce qui se passait en elle. Il lui saisit la main. Elle le repoussa, en un sursaut de révolte où il sentait de la haine, presque de la répulsion. Et comme il insistait, elle s'écria. « Mais laissez-moi, laissez-moi! Vous ne savez donc pas que je vous exècre !» Ils se regardèrent un moment, Lupin déconcerté, elle frémissante et pleine de troubles, son pâle visage tout coloré d'une rougeur insolite. Il lui dit doucement. « Si vous m'exécrez, il fallait me laisser mourir. C'était facile. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?»« Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que je sais ?» Sa figure se contractait. Vivement, elle la cacha dans ses deux mains et il vit 2 larmes qui coulaient entre ses doigts. Très ému, il fut sur le point de lui dire des mots affectueux, comme à une petite fille qu'on veut consoler, et de lui donner de bons conseils, et de la sauver à son tour, de l'arracher à la vie mauvaise qu'elle menait. Mais de tels mots eussent été absurdes, prononcés par lui, et il ne savait plus que dire, maintenant qu'il comprenait toute l'aventure, et qu'il pouvait évoquer la jeune femme à son chevet de malade, soignant l'homme qu'elle avait blessé, admirant son courage et sa gaieté, s'attachant à lui, s'éprenant de lui, et 3 fois, malgré elle sans doute, en une sorte d'élan instinctif, avec des accès de rancune et de rage, le sauvant de la mort. Et tout cela était si étrange, si imprévu, un tel étonnement bouleversait Lupin, que cette fois, il n'essaya pas de la retenir quand elle se dirigea vers la porte, à reculons et sans le quitter du regard. Elle baissa la tête, sourit un peu et disparut. Il sonna d'un coup brusque. « Suis cette femme, » dit-il à un domestique. « Et puis non, reste ici. Après tout, cela vaut mieux. » Il demeura pensif assez longtemps. L'image de la jeune femme l'obsédait. Puis il repassa dans son esprit toute cette curieuse, émouvante et tragique histoire où il avait été si près de succomber et, prenant sur la table un miroir, il contempla longuement, avec une certaine complaisance, son visage que la maladie et l'angoisse n'avaient pas trop abîmé. « Ce que c'est pourtant, murmura-t-il, que d'être joli garçon. » Fin du chapitre 4.